Bonsoir à vous tous. Merci d'être restés. Difficile tâche, s'il en est, très ardue, utopique peut-être que de suivre Igor et Grishka Bogdanov sur cette scène. Non pas l'ambition d'être aussi brillant, évidemment pas de formule mathématique, uniquement la mathématique urbaine peut-être aujourd'hui. Pour cette table ronde, que je crois sera très belle, l'architecture crée-t-elle un monde meilleur ? Alors évidemment, qui dit monde meilleur dit utopie. Or, une utopie n'est pas simplement un Éden ou le paradis ou un monde meilleur comme ça, par hasard. C'est un monde construit, c'est une société, une proposition de société. Et dans cette proposition de société, souvent, c'est une ville, la ville idéale, qui est au cœur de l'utopie. Et parce que simplement, la ville, c'est le lieu le plus simple, si on veut, pour organiser l'activité humaine, pour contrôler l'homme aussi. On parlera aujourd'hui des dérives utopiques également, j'espère, et des projets politiques concrets, que ce soit à Nantes ou dans l'histoire. Alors évidemment, la cité a l'avantage d'être un lieu circonscrit, un lieu que l'on peut contrôler peut-être, et où on peut contrôler également les gens. C'est un espace d'organisation tout à fait idéal, et vous le verrez, peut-être pas sans risque. Le discours sur l'utopie urbaine, il est à la mode depuis de nombreuses années, évidemment, et il est encore plus à la mode, je crois, aujourd'hui, avec les préoccupations écologiques que l'on a depuis quelques années. Et on en parlera aussi. Pour en débattre avec nous, de votre droite à gauche, Hugo Balagamba, historien du droit, maître de conférence à l'Université de Nice, écrivain, grand spécialiste des utopies, donc auteur publié depuis au moins une dizaine d'années, surtout sur les thématiques de l'utopie, de l'Uchronie, du voyage dans l'espace, lauréat de plusieurs prix, le Rony entre autres, le Bob Moran en 2005, également lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire pour un essai sur Heinlein, car il est également essayiste et organisateur de colloques. Alain Bosilvald, nommé l'un des 15 patrons les plus influents de Nantes, il y a de ça 2 ou 3 ans dans l'expansion, diplômé de l'école centrale, à la tête d'une très très grosse société ici à Nantes, la Semitan, 1500 employés, pas loin de 100 millions je crois d'euros de budget, quelque chose comme ça, et une priorité des transports publics propres. Sauf erreur, vous allez me contredire peut-être ou pas, impliqué dans les utopiales comme partenaire du festival depuis de nombreuses années, on se posera la question de savoir pourquoi également. James Gurney, invité d'honneur du festival, auteur de l'affiche que vous voyez derrière nous, illustrateur extraordinaire, également auteur, écrivain donc. Sa série d'Inutopia compte 4 livres, vendus à 2 millions d'exemplaires, dont le dernier, Un voyage à Chandara, une ville mythique, très récemment paru en français, et qui place justement cette ville un peu syncrétique, on le verra, au cœur d'une quête utopique. Et enfin, last but not least, Laurent Lescope, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, architecte diplômé par le gouvernement, docteur en sciences de l'ingénieur, qui étudie la scénographie urbaine, il nous en parlera, pour savoir de quoi il s'agit, et dans le domaine de l'imaginaire, puisque ça l'intéresse aussi, grand spécialiste de la ville 10, l'Atlantide bretonne, qui est aussi une sorte d'utopie. Et je vais commencer, en fait, évidemment, par le côté historique, peut-être avec vous, Hugo Balagamba. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes historiques sur l'architecture en tant que facteur de bonheur, en fait, dans le domaine de l'utopie, chez les grands auteurs comme Campanella ou Bacon, par exemple ?
Oui, alors, une première chose qu'on peut dire, c'est que la géométrie de l'espace, l'architecture a toujours eu, dans l'histoire de l'utopie, un rôle essentiel. Particulièrement à partir du XVIe siècle, et à partir de la Renaissance et de la Révolution scientifique, notamment la Révolution copernicienne, où on réalise que dans les processus utopiques, alors on va trouver bien sûr l'utopie de Thomas More en 1516, et puis cette utopie de Thomas More va être suivie de l'utopie de Tommaso Campanella, puis l'utopie de Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide. Et dans ces utopies de la Renaissance, qui vont entre le XVIe et le XVIIe siècle, en fait, on réalise que la recherche d'institutions politiques parfaites s'accompagne d'une géométrisation de l'espace et d'une incarnation de cette harmonisation de l'espace par la cité. Alors l'exemple le plus typique, hein, pour commencer par poser les bases historiques, hein, de ce lien entre architecture et idéal, entre architecture et utopie, c'est la cité du Soleil de Tommaso Campanella, un moine dominicain italien, qui a écrit donc La Cité du Soleil en 1602, pendant qu'il était emprisonné par l'Inquisition. Et cette Cité du Soleil, en fait, est une acceptation par Tommaso Campanella de la révolution copernicienne. C'est-à-dire que la Cité du Soleil est une cité en cercle concentrique, en sept cercles concentriques qui correspondent au nom des sept planètes connues du système solaire à l'époque, et au centre de laquelle se trouve un temple qu'il appelle le temple du métaphysicien, qui est le temple du soleil. Et cet héliocentrisme est incarné par la cité et montre bien donc que Campanella s'inscrit dans la révolution scientifique. Et cette révolution scientifique s'accompagne pour Campanella d'une révolution politique, et il décrit une cité du soleil fondée sur un idéal communiste de partage des biens, de partage des richesses et d'éducation ouverte à l'ensemble des citoyens. Ensuite, on a, très rapidement, hein, je fixe les bases, on a Francis Bacon, qui est un Anglais, donc avec, on a un environnement très différent, une Europe du coup protestante de ce fait, qui, avec la Nouvelle Atlantide, en 1623, fait de la cité le réceptacle de la recherche scientifique et, pour la première fois dans l'histoire de l'utopie, met au point, crée en fait le modèle de la recherche scientifique dirigé par l'État, impulsé par l'État, qui est la Maison de Salomon. La Maison de Salomon est une institution politique, institution publique, qui vise à développer la connaissance scientifique et les applications technologiques de la science. Alors finalement, on peut dire que ce lien entre l'architecture et l'utopie, d'une certaine manière, très largement, hein, de façon très simple, vient de la Renaissance et de la Révolution copernicienne, et probablement pose la question des liens entre la science et la politique.
Alors, ville scientifique, ville rationalisée, je vais directement rebondir sur une citation de Jules Verne, dans les 500 millions de la Bégomme, il parle d'une ville rationnelle, et je cite Jules Verne, « Pourquoi ne réunirons-nous pas toutes les forces de notre imagination pour tracer le plan d'une cité modèle sur des données rigoureusement scientifiques ?» Alors, Laurent Lescop, est-ce qu'une ville rigoureusement scientifique, est-ce que c'est possible et comment ? Est-ce que c'est souhaitable d'abord ?
Alors, une ville rigoureusement scientifique, la ville est rigoureusement scientifique dans le sens où elle fait appel à des processus d'engendrement, de construction, de dessin, de conception et ensuite d'utilisation qui repose sur la science et sur l'évolution de la science. Alors, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la géométrisation de l'espace, c'est ce qui a amené à commencer à parler d'utopie, en fait, en lutte contre la ville médiévale, qui était une ville libre, proliférante, qui n'était pas contrôlée autrement que par les murailles du château ou des murailles de défense qui pouvaient l'enserrer. Donc la rationalité scientifique commence par là, commence par le dessin géométrique qui repose sur plusieurs facteurs, parce que c'est pas tant le fait de faire un tracé harmonieux, souvent le tracé harmonieux qui est aussi lié au siècle des Lumières, c'est-à-dire on va retrouver l'architecture grecque et romaine, les principes régulateurs. Mais c'est aussi, dans un premier temps, des principes aéroliques, c'est-à-dire le fait d'aérer la ville, de la rendre moins fermée, de laisser passer les vents sains et chasser ce qui pouvait maintenir les maladies, etc. Donc on peut parler d'une vie scientifique ou d'une rigueur scientifique dès le moment où, effectivement, le tracé régulateur a permis d'aérer la ville dans un premier temps. Et ensuite, le tracé scientifique, c'est aussi pour contrôler la ville, parce que la ville régulière devient une ville contrôlée.
Alors, la ville régulière, la ville d'inspiration antique, James Gurney, tout a commencé pour vous d'Inotopia avec un dessin qui s'appelait, je crois, Lost Kingdoms, sur une ville d'inspiration gréco-romaine. Comment est-ce que vous avez construit votre utopie qui, sauf erreur, n'est pas vraiment une utopie très rationnelle, mais peut-être que vous me contredirez. À partir de cette image-là, pourquoi est-ce que c'est la ville gréco-romaine qui a amené directement l'utopie chez vous ?
Bien, dans le développement de cette utopie, j'ai eu l'avantage en fait que personne n'avait à la construire. Il n'est peut-être pas possible de construire les mondes que j'ai dessinés pour mes livres. Mais j'ai essayé de faire que c'était possible pour imaginer que l'on pouvait vivre dans ces endroits. Mais lorsqu'on recherche la géométrie en fait de ces utopies précédentes, ce qui m'intéressait, c'était ces cercles concentriques, oui. Une autre forme pour pouvoir aller autour, à l'encontre en fait de tout ce qui était linéaire en fait de ces carrés. Ce qui m'a surpris en fait, c'est que lorsque l'on voit ces villes qui ont réussi, ou même ici à Nantes, eh bien très souvent les gens sont attirés par des constructions de type médiéval qui n'ont pas été construites par des autorités centrales, mais tout simplement par la création des activités humaines qui construisaient en fait des modèles sans aucune forme géométrique. Et cette idée m'a intéressé parce que je pense que le désir rationnel d'organiser des modes de vie selon certains principes est peut-être une idée un petit peu limitée là. Si notre objectif est de créer des cités dans lesquelles les humains peuvent vivre, eh bien c'est peut-être là ce qui est le principe le plus important lorsque l'on construit une utopie, de ma perspective du moins, pour pouvoir commencer avec cette question là de qu'est-ce qui fait qu'une ville est vivable. Eh bien il faut qu'elle serve d'abord les principes de résidence, d'échange d'idées, de transport, d'apprentissage, d'acquisition de biens. Donc ces villes qui ont réussi ont fait tout ceci de façon très efficace.
Alain Bosvilvald, la planification des transports dans une ville, c'est peut-être avant tout, j'imagine, être rationnel et quadriller la ville, si on veut, d'une flottille de bus, de tram et que sais-je. Comment concilier cette volonté de quadriller la ville et en même temps ne pas limiter la mobilité des gens de façon à en faire quelque chose d'une grille, si on veut, analytique ou une grille de contrôle par rapport à la mobilité. Vous n'avez pas peur, par exemple, que le surdéveloppement des transports publics vienne contrer la liberté individuelle de pouvoir prendre, par exemple, sa voiture depuis n'importe où et aller où on veut, etc.
Je crois que le transport et l'urbanisme, c'est deux choses qui sont depuis très longtemps étroitement liées, sans qu'on sache vraiment qui est la poule et l'œuf. Il y a un long débat dans nos histoires sur savoir qui est la poule et l'œuf dans cette affaire. Je crois qu'on sait que le transport, il imprime un certain nombre de formes, et quand on regarde l'évolution des villes, l'apparition de l'automobile, par exemple, a complètement transformé la façon dont on vit les villes, puisqu'elle a effectivement, à un moment, rendu les distances extrêmement faciles à vaincre, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ces distances redeviennent inconfortables, parce qu'on retombe dans la distance du temps et plus la distance kilométrique. Et on sait à peu près qu'aujourd'hui, le temps que consacre un citoyen à son déplacement est à peu près une constante relativement vraie, aussi bien à Nantes que dans certaines grandes villes. Donc aujourd'hui, cette équation du temps, hein, si je reviens à ce que disaient les frères Bornenov tout à l'heure, mais je suis dans un univers plus simple, hein, mais la dimension du temps est devenue quelque chose de très important pour penser le transport à l'échelle d'une ville. Et aujourd'hui, je pense que le grand réflexe que l'on a, c'est plutôt d'essayer de redensifier les villes, puisqu'elles ont eu tendance à s'étaler, à avoir un urbanisme qui répondait exactement aux soucis des gens. Donc la petite maison, le petit jardin, je dis en plaisantant, les deux enfants, les deux voitures et le chien. Bon, c'est une ville qui ne peut pas continuer. Si elle continue comme ça, demain, elle deviendra invivable. Elle l'est déjà à moitié dans beaucoup de grandes mégapoles du monde. Donc effectivement, aujourd'hui, la question, c'est plus de reconcentrer autour de lignes de transport. Et d'ailleurs, c'est assez drôle qu'on utilise le mot de ligne, hein, de ligne de transport public, le mot étant presque né ici du temps de Stanislas Baudry. Donc il y a un lien toujours avec Nantes et les transports publics. Donc on revient à une espèce de ville linéaire, densifiée autour d'un certain nombre d'infrastructures de transport. Et puis après, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait autour de pôles plus humains, puisque la ville est grande, mais elle n'est plus à la dimension de l'homme. Donc il faut retrouver des éco-quartiers ou des quartiers où la marche à pied, où le deux roues redeviennent l'espace, j'allais dire, de courte distance et de court temps. C'est un petit peu ça l'équation dans laquelle on est aujourd'hui penché.
Laurent Lescope, certains utopistes séparent très nettement les différentes fonctions de la ville. Justement, il y a une partie qui est un jardin, la fabrique qui est une autre partie de la ville, l'habitation en est une autre. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Alain Bosvilvald, l'idée, c'est de créer des espèces d'éco-quartiers, des villes à échelle du village ou même du pâté de maison. C'est ça le futur de la vie, d'une ville pour redensifier les centres?
On a effectivement une problématique d'échelle et savoir quelle est l'échelle maintenant à laquelle on réfléchit. Alors, comme cela vient très bien d'être dit, on a une échelle qui est celle de une macro-échelle qui est celle de la métropole, puisque maintenant les villes ne sont plus simplement à l'intérieur de leur ceinture. C'est par exemple pour Nantes, la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Donc on est à l'échelle d'une centaine de kilomètres pour décrire un ensemble géographique, urbain, qui correspond à un usage particulier. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a une fraction, enfin on fractionne cette échelle-là pour essayer d'atteindre l'échelle humaine, ce qui n'est pas du tout facile par rapport au mode de vie de chacun, puisque fractionner l'échelle pour atteindre l'échelle humaine voudrait dire que l'on puisse habiter ou qu'une famille puisse à peu près opérer dans la même géographie, ce qui est un peu difficilement le cas actuellement. Et donc c'est un vœu pieux, ça voudrait dire qu'on travaille sur un rythme différent, un rythme qui permettrait peut-être un temps d'arrêt. Alors est-ce que c'est décent de le dire maintenant alors qu'on est en train de lutter contre les 35 heures, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut que la famille ou le quartier ou l'entité humaine, sociale qui crée la ville, parce que la ville ce ne sont pas des murs, si on dit que la ville ce ne sont que des murs, alors on a faux. La ville ce sont les habitants, c'est la façon dont ils s'approprient l'espace, et il faut leur laisser de l'espace et du temps pour jouer cette appropriation.
Mais comme l'a écrit Pierre Versin, nous sommes environnés d'utopistes manqués qui malheureusement agissent. Une partie de ces utopistes, ce sont les architectes eux-mêmes qui appliquent des formules, on va dire, pour faire rentrer dans des cubes. Et en fait, la ville, elle ne se fait pas autour de l'être humain, c'est l'être humain qui doit se transformer par rapport au type de ville dans lequel il vit, non ?
Oui, c'est une problématique des utopistes, effectivement. Le Corbusier qui fait son modulor, donc l'habitant idéal de son architecture, et son architecture étant l'architecture idéale de la ville qu'il conçoit pour l'implanter, allant, si on pense au plan voisin, allant détruire complètement Paris, ne préservant que quelques monuments. Ça, on va dire que c'est le versant noir de l'architecte, c'est le côté sombre de l'architecture. Il y a d'autres approches, mais en fait, on est face à des problèmes éminemment complexes qui évoluent très très rapidement, et des décisions qui étaient prises à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour rester très très proche de nous, ou à la fin des années 70 où la voiture était devenue prédominante et on mettait l'accent. Finalement, on se rend compte que les effets sont plutôt plus pervers que bénéfiques. Et derrière, il y a deux enjeux qui sont quand même très très importants. Ce sont les enjeux de pouvoir. Est-ce que c'est vraiment l'architecte qui décide ? C'est pas vraiment le cas. Et les enjeux de propriété, c'est-à-dire qui possède la ville. Et je pense que quand on aura répondu à cette question, qui possède la ville, on aura déjà bien progressé.
Hugo Balagamba, qui possède la ville ? Clairement, dans les utopies, ce ne sont pas les citoyens qui possèdent la ville, hein, puisqu'on a généralement avec la géométrisation urbaine, la mathématique, on va dire, appliquée au plan, etc., on contrôle évidemment par la mathématique urbaine le comportement de l'individu. Et dans la cité du soleil, sauf erreur, l'État régit non seulement où habitent les habitants, mais également comment ils se comportent. Par exemple, pour faire l'amour, se reproduire, etc., il y a des heures bien précises, il y a des surveillants. Donc, est-ce que ça va forcément de pair est-ce que dans l'utopie urbaine, il y a forcément la volonté de modeler l'individu au-delà de ce qu'il accepte ?
Oui, en fait, on pourrait presque poser le problème de la manière inverse, c'est-à-dire que c'est l'architecture de l'utopie elle-même, traditionnellement, qui forge les mentalités des individus qui l'occupent. Alors, on le voit très bien avec les utopies de l'époque donc de la Renaissance et du grand siècle, hein, du XVIIe. L'utopie est aux mains des scientifiques. Hein, le métaphysicien, c'est celui qui sait tout. Et le but, c'est d'éduquer. Alors, on peut relier ça avec l'utopie platonicienne, hein, puisque la République de Platon a été qualifiée d'utopie a posteriori, hein, évidemment, puisque le terme, le néologisme, est développé par Thomas More. Mais l'idée de l'utopie, c'est de montrer comment l'architecture en elle-même, et je pense que la question est toujours d'actualité aujourd'hui, comment l'architecture peut modeler le comportement politique du citoyen. Alors, et comment elle peut, quelque part, éduquer le citoyen. On le voit très bien, un exemple très simple, hein, dans la Cité du Soleil, l'éducation ne se fait pas par des enseignants, elle se fait par des fresques historiées, ce que Campanella appelle des fresques historiées, qui se trouvent sur les murs des enceintes de la cité. C'est-à-dire que sur chacune des sept enceintes de la cité, toutes les connaissances disponibles pour ceux qu'il appelle les solariens, ceux qui vivent dans la cité, sont disponibles. Et il explique que les enfants apprennent en jouant, et que les citoyens sont éduqués en déambulant, en marchant dans la cité. Il y a un lien direct entre la cité, à la fois nourricière et éducatrice, et le citoyen. Mais évidemment, cette cité va éduquer le citoyen pour se pérenniser. Dans la maison de Salomon de Francis Bacon, en 1623, donc 17e siècle, ce sont encore les scientifiques qui sont au pouvoir. Et toute la cité fonctionne autour de la maison de Salomon, qui vise à produire de nouvelles technologies pour décupler les potentialités des Atlantes, en fait, hein, de la nouvelle Atlantide. Et ça continue beaucoup, beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'après, toutes les utopies qu'on va trouver plus tardivement, et qui parfois vont être situées dans le futur, sont toujours des utopies où cette idée, je pense qu'elle est toujours d'actualité, cette idée de l'architecture qui conditionne, qui favorise ou qui freine la conscience politique du citoyen. Et je pense que plus que jamais, on est dans cette problématique-là, c'est-à-dire les cités que l'on fera demain, vous parlez d'écoquartiers par exemple, on revient à des quartiers à taille humaine, et est-ce que c'est pas aussi revenir vers le citoyen en lui-même et encourager l'initiative citoyenne à l'échelle locale? Ça peut aussi être une manière pour la politique de demain de réinvestir l'activité du citoyen en temps réel. Voilà. Mais on le voit, ce que vous avez à l'écran par exemple, il faut faire attention parce que l'enjeu politique derrière est quand même omniprésent. C'est-à-dire que, par exemple, ce que vous voyez là, c'est une étude pour la Troisième Internationale, une étude russe pour la Troisième Internationale qui date de 1920 et qui est une des conséquences, une des évolutions du futurisme, en fait. Le futurisme est un mouvement qui est né en Italie au début du 20e siècle, vers 1914, juste après la Première Guerre mondiale. Et ce futurisme a été capté par différentes idéologies. Il y a eu le futurisme stalinien, on va dire, ou en tout cas futurisme donc du côté de la Troisième Internationale et qui va se développer. Il y a aussi le futurisme capté par le fascisme. Et l'enjeu de l'architecture, c'est qu'elle porte en elle un discours aussi. Et ce discours est politique. Et à ce moment-là, toute architecture est politique. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les choix architecturaux qu'on fait, je vis à Nice. Il y a des choix architecturaux qui sont faits, le développement du tramway, etc. La manière dont on ouvre l'espace ou on ferme certains espaces pour les citoyens, c'est politique.
Laurent Lescope, vous voulez réagir ?
Oui, parce que je pense qu'on peut évoquer à ce moment-là le fameux ministère de Guise, parce que c'est là l'utopie réalisée, enfin celle qui a essayé d'être réalisée, où effectivement le contrôle de cet ensemble à l'échelle humaine, puisque c'était en fait un corps de bâtiment, se faisait quand même par l'intercontrôle des habitants les uns vis-à-vis des autres et l'éjection des habitants qui ne jouent pas le jeu. Hein.
Bien sûr, le familistère qui est aussi inspiré des phalanstères de Fourier. C'est-à-dire, en fait, l'idée de Charles Fourier avec les phalanstères, c'était 400 familles, 400 habitations, une complémentarité de ce qu'il appelait les passions, c'est-à-dire que chacun devait avoir une activité qui corresponde à ses goûts. Et cette idée était de créer une complémentarité idéale. Mais ça suppose évidemment derrière aussi que si il y a soit des habitants qui vont avoir deux fois la même fonction, eh bien il faut harmoniser. Donc ce qui suppose aussi, et c'est tout le problème de l'utopie, c'est qu'elle est fermée. C'est-à-dire que l'enjeu peut-être du 21e siècle, c'est d'inventer des utopies ouvertes.
Alors on voit à l'écran d'ailleurs la saline royale d'Arc-et-Senon, qui est justement une de ces utopies fermées autour de la fabrique. Alors la ville conditionne la politique, disons, et on va dire la vision politique des citoyens. James Gurney, le dernier ouvrage de Dinotopia, Un voyage vers Chandara, c'est une quête utopique justement vers une ville qui est particulièrement syncrétique, qui est une espèce de mélange d'architecture orientale, l'architecture indienne, asiatique, etc. Et dans le monde de Dinotopia, l'une des choses qui est presque plus importante à mon avis que le fait que les dinosaures soient présents, c'est qu'il y a des gens de toutes les époques et de tous les continents en fait, sur Dinotopia, puisqu'ils sont les naufragés toutes les périodes. Alors, est-ce que la ville syncrétique, c'est une manière de faire que les habitants vivent, disons, en harmonie les uns avec les autres, ou est-ce que c'est une résultante, justement, du fait que ces habitants soient ces gens qui viennent de différentes périodes et différents pays ?
Yes, well, that's correct. The concept...
Oui, tout à fait. Le concept de cela, c'est que les gens viennent de différentes périodes de l'histoire, différentes périodes de différentes régions du monde, et donc les villes sont un mélange de toutes ces différentes cultures, et c'est justement ce qui me plaît dans les vieilles villes, en Europe en particulier, en Asie également, c'est ce mélange des différentes démarches architecturales qui ont été intégrées les unes aux autres dans le temps, plutôt qu'une ville finalement qui sort du sol, comme un peu Brasilia, hein, qui est un peu une capitale dystopienne, parce qu'il y a un seul style finalement.
Un peu quand même, vous ne voulez pas recréer une ville à partir de rien, vous revenez à des modèles déjà éprouvés, on va dire.
Régressif, non, pas conservateur. Hein. Toute utopie que l'on peut visualiser pour nous, disons nous-mêmes, devrait prendre en compte les dernières technologies, les dernières technologies d'énergie renouvelable, par exemple. Et par exemple, une réaction intéressante que nous avons vue aux États-Unis vis-à-vis des banlieues idéales des années 50, hein, on avait vu le mouvement du nouvel urbanisme. Parfois, il y a des villes portuaires, par exemple, des villes littorales dans le sud des États-Unis qui ont été construites comme des communautés complètes, mais elles reposent sur le principe des piétons, enfin de l'accès piéton, de mélanger le résidentiel et le commercial, et ça repose également sur des principes de petits parcs plutôt que de grands parcs naturels. Donc il y a plus de sentiment de sécurité accru dans ces petits ensemble. Donc un nouvel urbanisme qui doit prendre en compte l'ancien urbanisme pour le modifier parfois, et, le rétro-modifier comme on dit. Donc parfois cela consiste à ralentir la circulation par exemple, parce qu'il y a certaines villes qui ont beaucoup mieux fonctionné, disons, se sont beaucoup mieux développées lorsqu'il y a beaucoup moins de la circulation va moins vite, hein, bizarrement.
Alain Bosvilvalde, vous suivez les Utopiales depuis nombreuses années, vous êtes partenaire du festival. À quel point cette réflexion utopique dont on parle aujourd'hui, elle est importante concrètement dans une réflexion sur la ville? À quel point est-ce que votre démarche aussi est utopique? Est-ce que vous projetez, si on veut, Nantes dans 50 ou 100 ans, lorsque vous tracez les plans des nouveaux trams ou des busways, etc. Il ne s'agit pas de répondre simplement aux attentes d'aujourd'hui ou demain ou d'après-demain, il s'agit d'avoir une vision à long terme, et si oui, laquelle?
Il faut essayer d'avoir une vision à long terme, parce qu'on le rappelait tout à l'heure, des projets d'infrastructure, ça met entre une petite vingtaine d'années à naître, hein, quand on regarde bien. Donc ce que l'on réfléchit aujourd'hui, c'est pas pour la ville d'aujourd'hui, c'est pour essayer de la projeter dans ce qu'elle sera dans 20 ans. Donc c'est un exercice un petit peu de haute voltige. Parce qu'effectivement, les tendances lourdes, on les connaît, mais la réalité, elle n'est pas écrite, hein, par nature même. Hein. Et quand j'entends parler effectivement d'une ville qui redevient plutôt à l'échelle d'éco-quartiers, de choses comme ceci, ça nous convient assez bien dans une image d'une ville un peu lieu de mixité, ce dont on rêve, mais on voit aussi déjà des dérives aujourd'hui, puisqu'on voit des micro-quartiers dans lesquels effectivement c'est un ghetto à l'envers. Hein. On commence à voir aux États-Unis des micro-quartiers dans lesquels c'est que des retraités qui vivent dans un milieu fermé. Quand on a 30 ans, on ne doit pas pouvoir y entrer. Donc il y a aussi dans cette évolution possible à la fois quelque chose de positif et des dérives qu'on commence à sentir. La ville, elle éclate aussi pour des raisons économiques. On le disait tout à l'heure, la ville, c'est aussi une construction politique dans laquelle la dimension de l'économie est aussi une dimension de fracture extrêmement forte. Un certain nombre de centres-villes aujourd'hui sont en train de se vider d'un certain nombre de populations, tout simplement parce que les loyers augmentent. Donc quand on réfléchit à une ville de demain, donc dans 20 ans, c'est déjà aujourd'hui quels sont les moyens d'action que l'on a pour éviter que les tendances qu'on mesure ne conduisent à ces effets-là. Et puis après, c'est un travail vraiment de politique au sens noble du mot, la politique au sens de science de la ville, du partage des choses communes. Donc là, il y a effectivement... c'est intéressant de regarder un petit peu comment évoluent différentes collectivités. Et c'est pour ça que l'utopie, c'est toujours quelque chose d'intéressant, parce que il y a des visions... Moi, je trouve parfois que les visions sont très pessimistes. Et je ne sais pas si on doit continuer avec ces visions très pessimistes. Je lisais avant de venir la phrase de l'architecte finlandais Alva Aaltonen, qui disait que l'architecture ne peut pas sauver le monde, mais elle peut donner de bons exemples. Donc je pense que essayons de construire de bons exemples et puis ne cherchons pas forcément à changer le monde.
Alors prenons un peu notre envol justement dans les univers de la science-fiction. Hugo Bellagamba, outre l'utopie, la science-fiction imagine les mondes meilleurs par l'architecture et également. La ville de demain, en fait, dans la science-fiction, qu'est-ce qu'elle peut nous promettre pour améliorer notre... Puisque le thème de cette table ronde, c'est quand même l'architecture peut-elle créer un monde meilleur? Alors, est-ce que l'architecture de SF, elle laisse la ville du futur, crée-t-elle un monde meilleur? Ou est-ce que c'est simplement la ville du futur, c'est la contre-utopie de THX 1138, c'est, on va dire, voilà, est-ce que c'est une ville coercitive de Big Brother ou pas forcément dans la science-fiction?
Alors, la science-fiction, c'est un peu un réservoir d'idées et de modèles de ville alternatives. C'est-à-dire que vous allez trouver dans l'histoire de la science-fiction anglo-saxonne, francophone, américaine, enfin internationale, la science-fiction, par essence, s'intéresse à la ville, parce qu'elle s'intéresse, par essence, à la société. Donc, les modèles de ville futures, on va en trouver un très grand nombre. On va trouver des villes verticales, notamment par exemple les monades urbaines de Robert Silverberg ou IGH de James Ballard auquel on rendait hommage dans ce festival. Puis on va trouver par exemple des villes qui sont des villes étendues, très très vastes et sur des territoires très très étendus et pas du tout verticales mais au contraire horizontales avec de vastes domaines agricoles, etc. On va trouver des modèles, des villes souterraines par exemple dans le cycle de fondation d'Isaac Asimov, on trouve des villes souterraines, dans le cycle de 30 ans, on trouve des villes géantes enfoncées sous la terre, avec des étages et vraiment une dimension, presque, on trouve des villes-mondes parfois, des villes-planètes. Mais toujours la même question se pose, quoi, c'est-à-dire quelle est la viabilité de ces villes? Alors, je vais donner un petit bémol, hein, mais qui est dû à l'essence même de la science-fiction. Il ne faut pas quand même oublier que la science-fiction dont on parle aujourd'hui dans ce festival, c'est aussi raconter des histoires. Et c'est aussi vous amener dans un univers imaginaire, et le simple fait de s'engager dans une démarche narrative nous impose d'aller au-delà de l'exposition d'un modèle social ou d'un modèle architectural. Et 9 fois sur 10, lorsqu'on vous raconte une histoire, il vaut mieux que ça se passe mal. Parce que si ça se passe bien, c'est pas très intéressant. Et on va trouver dans la science-fiction beaucoup plus de contre-utopies, beaucoup plus de villes totalitaires, aliénantes, que de villes idéales. Alors finalement, on pourrait prendre la science-fiction en négatif. Et finalement, je pense que peut-être les architectes ou les politiques architecturales de demain pourraient utiliser la science-fiction comme déjà l'exemple de l'impact social que peut avoir un certain nombre de contre-modèles de villes, soit concentrationnaires, soit souterraines, soit aliénantes, etc. Les villes véritablement positives, il y en a moins dans la science-fiction. Les modèles idéaux, il y en a moins. Par contre, on trouve des villes qui, de prime abord, tu m'arrêtes, enfin vous m'arrêterez si je... Mais qui n'en sont pas. Par exemple, on trouve des vaisseaux arches. Et dans le space opéra, qui est une partie importante de la science-fiction, on trouve souvent cette réflexion sur un espace à la fois vaste et confiné. Et comment une civilisation peut à la fois être dans un espace à la fois très vaste, un lieu fermé, et en même temps un lieu suffisamment vaste pour développer une civilisation et lui permettre de se renouveler génération après génération. Et le problème, je crois, reste toujours le même. Est-ce qu'on veut des villes fermées sur elles-mêmes mais en autarcie, comme étaient les cités-états de l'Antiquité grecque, ou est-ce qu'on veut des villes ouvertes et qui sont en perpétuelle évolution? Et peut-être que l'une des clés du XXIe siècle, ce serait peut-être d'inventer enfin la ville vivante, c'est-à-dire la ville qui, grâce à la technologie, est une ville en perpétuelle évolution. Il y a des projets de tours, je ne sais pas, je m'aventure peut-être sur un terrain qui n'est pas tout à fait... des projets de tours qui tournent sur elles-mêmes, est-ce que vous... Voilà. Alors c'est peut-être là aussi l'une des clés d'une nouvelle architecture qui serait une architecture en perpétuel mouvement.
On avait parlé de ça il y a 2 ans ici aux Utopiales avec Lux Keuten, donc architecte belge qui avait fait cette belle exposition Archiborescence sur une ville qui était comme une plante en fait, qui évoluait à un rythme naturel. James Gurney, Hugo Bellagamba vient de rappeler que dans la science-fiction, la ville c'est plutôt lié à la contre-utopie. C'était assez gonflé, on va dire, de faire une utopie. C'est un peu l'ennui, l'utopie, par essence, puisque rien ne se passe. Pourquoi avoir choisi plutôt ce vecteur-là? Et comment faire vivre l'utopie, en fait?
Que les utopies sont plus difficiles à décrire que les dystopies, hein. Mais je trouve qu'elles sont tout de même très intéressantes. Parce qu'on parle de problèmes à l'échelle humaine plutôt que de problèmes à l'échelle planétaire. Vous avez soulevé une question intéressante également concernant la taille. Quelle est la taille idéale d'une ville ? Et les meilleurs modèles d'organisation sociaux sont basés sur des plus petits modèles en général. Une des choses qui m'a intéressé pour Dinotopia, c'était de me pencher sur les petites communautés religieuses aux États-Unis, par exemple les Quakers ou les Shakers. Donc, je me suis rendu, je suis allé les voir, et ce sont des communautés tout à fait dynamiques. Alors que des communautés des années 60 sont complètement effondrées, par exemple. Et certains de ces groupes, de représentants de ces groupes m'ont dit que la taille idéale, c'est 200 personnes. Et après, au-delà de ça, il y a des divisions, et puis il y a des noyaux séparés. Bon, ces petites communautés, voilà, fournissent un tout. Et apparemment, moi je me voyais pas y vivre, hein, mais c'est bien de voir que ces idées perdurent et fonctionnent. Je sais pas comment ces idées pourraient fonctionner avec des gens qui ne sont pas guidés par une philosophie unique, hein, et unifiante, mais c'est intéressant de voir que certains remettent en question ce qu'on pense être le standard, la norme, hein, pour la civilisation.
Pour rebondir sur ce que disait Jim Garnet, ce qu'il y a aussi de difficile, alors c'est vrai que c'est aussi une exaltation, hein, d'une certaine manière, d'essayer de décrire et de faire vivre une utopie. Hein, et encore une fois, la science-fiction choisit plutôt souvent le côté de la contre-utopie, mais il y a aussi des auteurs qui imaginent des futurs positifs et des futurs qui passent aussi par des nouvelles architectures. Mais je pense que la faille de l'utopie, on parlait des tailles, hein, c'est-à-dire 200 personnes ou 400 familles pour le phalanstère. Mais la faille de l'utopie, c'est qu'elle cherche, et c'est peut-être là la question du XXIe siècle aussi, elle se base sur une idée selon laquelle on peut rationaliser complètement le comportement humain. Or, si on continue de considérer qu'il y a une part d'irrationnel en nous qui peut-être aussi nous définit en tant qu'être humain, et pas en tant que machine, hein, ou en tant qu'élément d'un tout interdépendant, l'utopie ne peut qu'échouer. Parce que, évidemment, même si vous partez avec 200 personnes consentantes au départ pour en faire une tentative, même si vous avez 400 familles dans un phalanstère ou dans un familistère, inévitablement, au bout d'un moment, vous avez la liberté individuelle, l'évolution personnelle qui va entrer en conflit avec la fonction sociale figée que l'on a acceptée pour que le système reste en équilibre. Et toutes les tentatives, hein, absolument toutes les tentatives de réalisation de systèmes utopiques jusqu'à ce jour, et particulièrement celles au XIXe siècle avec les utopies scientistes notamment, ont échoué. Avec les tentatives, notamment New Harmony, les villages owéniens aux États-Unis, etc. Toutes ces tentatives de mise en place de systèmes utopiques, de communautés fermées en autarcie et fondées sur le consentement de tous au départ, ont pratiquement toutes échoué en moins d'un an. Parce qu'il y a probablement en l'humain aussi une aspiration au changement. Et c'est là où je reviens sur cette idée de l'évolution. L'utopie est statique, l'humain est en mouvement, donc il y a un problème.
Laurent Loscop.
Oui, alors le mouvement, elles ont échoué aussi parce qu'on a scié les bases qui structuraient les gens, qui les faisaient appartenir à un territoire ou à une communauté ou à une époque ou à une structure sociale. Et c'est ce qui est remarquable d'ailleurs dans les histoires de James Gurney, c'est pourquoi ça nous accroche immédiatement, parce qu'il prend comme assise à son utopie des mondes qui existent déjà, c'est-à-dire qu'on vient avec tout le potentiel, toute l'histoire, toute l'émotion que l'on peut avoir trimballée nous-mêmes, nos ancêtres, et nos prédécesseurs et les rêveries qu'on met avec. Et le monde qui est créé là, c'est justement par rapport à d'autres utopies qui font table rase avec le passé et qui disent, soit de façon géométrique ou autre, voilà la nouvelle direction. Ici, on s'appuie très très fortement sur quelque chose qui effectivement est mélangé, mais qui fait fortement référence à des univers existants auxquels on peut s'accrocher. Et je crois que vraiment les échecs des utopies précédentes, c'était ça. C'était d'avoir rasé le passé, dire on recommence de zéro. En fait, non, on ne peut pas recommencer de zéro. Il faut réussir à trouver une décontinuité et de s'inscrire dans ces continuités.
Juste peut-être passer la parole à Alain Bozulval qui voulait réagir.
Je voulais juste ajouter sur ce problème de la taille, hein, parce que c'est un problème intéressant dans la mesure où aujourd'hui, c'est vrai que la tendance naturelle, c'est plutôt le grossissement des mégapoles dans le monde. Hein, c'est pas... Moi, je crois qu'on ne peut pas résumer la taille à une seule taille. C'est-à-dire que l'homme, il vit à différentes échelles, y compris dans une ville. Il vit à l'échelle d'un quartier parce qu'il y a des activités qui se font à l'échelle d'un quartier. Et puis, il doit vivre à une échelle qui est celle d'une métropole et puis à celle de son pays, à celle de l'Europe, à celle du monde. Donc, tout réduire en disant qu'on va retrouver toutes les fonctions, toutes à la même échelle, je pense que c'est une véritable utopie. Je pense que la vraie organisation, si on arrive un jour à en imaginer
une... C'est pas une utopie, c'est une erreur.
C'est une erreur, mais oui, c'est encore plus grave. Encore que... Bon. Donc je crois que c'est la vraie réponse, entre guillemets, ou un des éléments de réponse, c'est d'articuler plutôt ces différentes échelles. Et tout le problème que l'on a aujourd'hui, c'est l'articulation de ces échelles. Tout le monde est d'accord pour vivre dans un espace un peu limité avec ses voisins, etc., etc., que l'école des enfants soit dans le quartier, qu'on fasse ça à pied, mais on imagine bien qu'on trouvera pas un musée dans tous les quartiers de toutes les villes. Donc il y a bien cette articulation, et je pense que un des problèmes du transport aujourd'hui, si je reviens à ma petite échelle à moi, c'est justement l'articulation de ces différentes échelles pour que les transports soient à chaque fois la bonne réponse à l'échelle que l'on vise.
On parle beaucoup ici d'urbanisme, en fait, plus que de l'architecture. Hein, c'est moi qui vous ai emmené sur ce terrain-là. Si on parle d'échelle, ça me permet de rebondir sur l'architecture pure et dure, on va dire. Laurent Lescope, est-ce qu'il existe des modèles architecturaux à une échelle très petite qui permettent d'améliorer notre existence, ou est-ce que, enfin, petite ou peut-être la famille ou même l'individu, ou est-ce que le plus petit dénominateur commun pour l'amélioration de la vie, c'est la communauté? Est-ce qu'on peut, par l'architecture, transformer ou améliorer l'existence d'une seule personne?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique dans le sens où ça dépend de l'âge, du moment de la vie. Et c'est un des enjeux, d'ailleurs, de la ville de demain, c'est de pouvoir à la fois se concentrer, mais aussi de pouvoir répondre à des besoins qui évoluent en fonction de l'âge des individus. On n'a pas du tout les mêmes besoins quand on a 20 ans, quand on démarre, quand on a un besoin de sociabilité dû à un démarrage professionnel, par exemple, que ceux que l'on a quand les enfants arrivent et qu'on a des besoins de scolarité, de culture, de sport, de loisirs, etc., qu'une fois retraité, où on va peut-être vivre encore différemment les choses. Et c'est cette mutation qu'il faut réussir à comprendre et qu'il faut réussir à envisager. Et là, ce n'est pas du tout facile. Après, l'échelle idéale, qu'est-ce qu'elle est ? C'est peut-être la cabane. La cabane que l'on fait au fond de son jardin, c'est peut-être ça l'échelle idéale, celle du nid originel, en fait.
On parle d'échelle, donc d'espace, on parle de l'âge, du temps, donc on est vraiment presque chez Igor Grishka avec Bogdanov, là, l'espace-temps appliqué au monde meilleur aussi. Il y a chez James Gurney une illustration et une idée que moi j'aime beaucoup dans son nouveau livre, c'est le marché aux idées. Il y a dans la ville, à un endroit, des gens qui écrivent sur des feuilles ou font des dessins et vont vendre leurs idées, en fait, comme on vend des fruits ou des légumes au marché. Si ce marché aux idées existait, et si vous pouviez, chacun d'entre vous, arriver avec une idée, disons, urbanistique ou architecturale, pour réelle ou totalement utopique, hein, pour améliorer notre existence, quelle serait-elle ? James Gurney, peut-être, pour commencer.
Je ne sais pas s'il y avait un marché des idées, et si je devais survivre juste à ça, je pense que je n'arriverais pas à gagner ma vie en faisant ça. Mais bon, cette idée de marché des idées, ça vient d'une idée figurative, disons. C'est le marché des idées, on parle de la presse, en fait, hein, c'est le marché des idées. On ne sait pas vraiment d'où vient cette expression, mais bon, c'est ce qu'on utilise. Moi, je l'ai prise au pied de la lettre. Quel type d'architecture, quel type d'espace dans les villes fonctionne pour un type de population précis? Y a-t-il des modèles qui fonctionnent pour une grande variété de cultures? Parce que la culture, ça détermine bien sûr notre mode de vie. En Afrique, par exemple, il y a des organisations qui sont faites en cercles concentriques ou qui fonctionnent, qui sont qui ont été conçus en fonction du corps, par rapport au corps humain. Et il y a le modèle de la ville coloniale qui a été proposé par les Romains, tout d'abord, dans les villes conquises de force. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire une ville tellement attirante que les gens voudraient faire partie de l'idéal romain par le biais, et puis après, par le biais d'une imposition fiscale. Hein. Et donc, le fait de construire des monuments, des places publiques, ça a été vraiment les fondations des villes les plus qui ont connu les succès les plus retentissants dans l'histoire.
Pour améliorer l'existence, ne serait-ce que des Nantais.
Des plans, il y en a plein les cartons, vous savez bien, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu l'argent. Donc ça, c'est un autre sujet, donc dont on aura peut-être l'occasion dans un autre espace de parler. Non, moi, dans le marché aux idées, hein, moi, il y a une chose qui me tracasse toujours, c'est de la bonne définition de l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Et à chaque projet, on est confronté un tout petit peu à cette double dimension. Et d'ailleurs, les procédures qu'on a aujourd'hui sont, et je les comprends bien, sont des procédures aussi qui cherchent à protéger au maximum le citoyen. Mais du coup, parfois, on s'éloigne un tout petit peu de ce qu'est l'intérêt collectif. Et donc, s'il y avait sur le marché des idées quelqu'un qui arriverait à essayer de mieux définir comment on peut définir justement ce qu'est un intérêt collectif, je pense qu'on aurait fait un petit pas.
Hugo Bellagamba, vous êtes auteur avant tout peut-être, donc vous allez avoir des idées évidemment pour l'amélioration de la ville dans le futur à travers l'architecture.
Oui, je vais être provocateur, le marché aux idées, moi ça me plaît pas parce que les idées n'ont pas de prix. Hein. Donc je vois quoi, il y aura un marché des idées, il faut qu'elles soient libres les idées de circuler. Mais ce que je vais dire, c'est simple en fait par rapport à l'utopie et à cette construction du monde meilleur en fait en réalité par l'architecture, etc. Finalement, je pense qu'il ne faut pas. Toutes les utopies ont échoué. Elles sont statiques, elles sont fermées alors que l'être humain est en mouvement. Finalement, il faut se servir des utopies, mais pour enrichir votre culture, tout simplement. Et je crois que l'une des idées, ce serait de réinjecter, en tout cas, elle y est quand même, mais d'une certaine manière, de faire en sorte que les gens puissent fréquenter l'utopie comme un paysage avec ses vallées, ses montagnes, ses reliefs, ses cours d'eau, comme un paysage dans lequel ils peuvent déambuler mais sans jamais devoir s'y arrêter. Il faut imaginer les utopies de l'histoire et celles qui viendront comme un paysage que vous pouvez utiliser pour, à chaque jour, repenser votre position en tant que citoyen et en tant que membre d'une collectivité. Et voilà peut-être l'idée, c'est-à-dire c'est simplement, c'est finalement la culture qui compte. Et je crois que le lien entre l'architecture et la culture, ça doit être ça, c'est-à-dire que l'architecture ne devrait pas imposer un modèle, mais devrait garantir que la liberté des idées soit toujours là.
Laurent Loscop, vous voulez rebondir là-dessus et peut-être aussi nous donner votre perspective, vous qui êtes chercheur et vous devez donner vos idées à vos étudiants, bien sûr, pour qu'eux puissent prendre le relais et améliorer la cité.
Alors, ce qui est sûr, on a commencé par des problématiques de géométrie et ce qui est certain, c'est que la forme idéale, la forme qui rendrait heureux, la forme qui permettrait à chacun de vivre en harmonie n'existe pas. En fait, ce n'est pas une question de forme, c'est vraiment une question de citoyens, d'habitants, de collectivités. Et la question qui se pose, c'est est-ce que chaque individu est capable de trouver sa place au sein de cette collectivité. Et je pense que si les utopies n'ont pas fonctionné, enfin celles qui ont été mises en place n'ont pas fonctionné, c'est qu'au bout d'un moment, certains ont commencé à se dire « je ne sais pas où je suis dans cet ensemble-là, je n'arrive pas à trouver ma place ». Et soit ils étaient éjectés par le système, soit ils s'éjectaient eux-mêmes, et c'était ça. Et en fait, la question qu'on a à se poser, c'est effectivement comment on arrive à intégrer tout le monde dans la diversité, dans la différence, et dans l'évolution. Cette dimension temporelle est vraiment plus qu'importante, elle est déterminante. C'est une dimension qu'on laisse un peu de côté parfois, parce qu'on a l'impression que quand ça marche, et c'est un peu ça l'utopie, c'est aussi le temps figé, c'est la géographie figée, c'est le temps figé. Là, il faut absolument mettre cette dimension temporelle en mouvement, et puis se dire, à l'échelle de l'individu, est-ce que chacun trouve sa place. Il y a des moments dans l'histoire, et hélas, ce sont les moments dramatiques, c'est au cours des reconstructions. On voit à ces moments-là, il se passe des choses parce que, effectivement, quand on parle de la quelle est la communauté globale? Est-ce que chacun trouve l'intérêt public? On reconstruit une ville, chacun y participe et chacun voit le sens que cela donne. C'est cette dimension qu'il faut interroger, que les utopistes interrogent d'une manière peut-être un peu fermée, à nous de les interroger de façon plus ouverte, quoi.
Donc la ville idéale, ce serait en quelque sorte une ville justement syncrétique, un peu de plusieurs espaces, de plusieurs temps. Difficile projet, puisqu'il faudrait éviter qu'elle ne se dissolve d'elle-même, puisqu'elle ne soit pas conflictuelle. Donc chez James Gurney, ça marche, mais ça reste un livre d'illustration. Peut-être le mot de la fin pour James.
Pourquoi
oui.
ça marche?
Parce pourquoi
que
ça marche, oui.
Parce que c'est beau. Parce que c'est... La dimension esthétique, on l'a pas abordée. Et pourquoi ça marche? C'est parce que c'est beau déjà. C'est agréable. Oui,
mais le beau d'une personne est évidemment le laid d'une autre personne. Donc.
Oui, mais malgré tout, il y a une
Well,
idée
thank you for thank you for your kind words. I think that.
Pour ces paroles flatteuses. Il faut que les gens effectivement adoptent cette idée d'une ville utopique. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont devenus des endroits idéaux, mais par hasard. Par exemple, à Édimbourg, il y a une structure en plusieurs niveaux qui a créé un mélange vraiment des classes privilégiées, des classes plus modestes. Et c'est vraiment quelque chose à mettre au crédit de l'Écosse à cet égard. Mais on peut tout de même concevoir les choses, les prévoir, pas seulement grâce à l'architecture, mais également aux mesures qu'on peut adopter par rapport au cadastre, au zonage, aux choses comme ça. Mais il faut travailler à beaucoup de niveaux. Je pense qu'il faut commencer en rêvant d'autres mondes. Et peut-être que sur Internet, on verra naître l'idée de communauté virtuelle qui se développe selon des standards, des normes différentes du monde réel, un monde où les gens pourraient concevoir un univers qui existe, mais dans un monde virtuel où ils pourraient se déplacer dans les rues, d'utiliser des différents avatars. S'ils veulent acheter des appartements, eh bien, on peut le transformer, ils peuvent le transformer, construire de nouvelles structures. Je pense que vraiment, dans le monde virtuel, on verra naître une exploration de ces nouvelles idées, des idées qui marchent et des idées qui ne marchent pas.
Encore, heureusement, très vaste, et je crois que Hugo l'a bien rappelé, il faut continuer à utiliser les utopies, non pas comme un but, mais comme une carte routière, en quelque sorte, que l'on peut utiliser à notre guise. Il y a plusieurs chemins. On va s'arrêter ici, puisque nous sommes... sur le point de passer la cérémonie de remise de prix dans quelques instants. Ne partez pas, ça va durer pas très longtemps, ça va être magnifique, il y aura plein de lauréats, il y aura l'incroyable Gérard Royer qui va prendre ma place et qui sera brillant comme d'habitude. Merci à vous tous et on espère à l'année prochaine. Merci.
Thank you, Mr. Giger.